De retour après la pause sur Radio Shalom Montréal 1650 AM à l'émission Les Faces Cachées de la Musique Juive, animée par Hélène Engel, qui reçoit aujourd'hui Damian Nissenson. Alors Damian, on entend vraiment des thèmes juifs dans El Pie Grande. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
C'est dans ma nature. Je peux rien. Et comme beaucoup de gens de ma génération, la musique juive était très présente quand j'étais enfant. Et pendant que la génération de mes grands-parents, qui étaient arrivés tous d'Europe de l'Est, étaient vivants. Dans la mesure où ils ont commencé à vieillir et à mourir dans les années 60-70. Et cette musique, comme tout ce qui avait trait à la culture juive, sauf la bouffe, a commencé à disparaître. Et je viens d'une famille complètement laïque, il n'y avait aucune trace des pratiques religieuses, mais vraiment aucune. Et comme quoi le lien qui nous unissait, le lien formel au moins visible qui nous unissait au judaïsme commençait à s'effilocher un tout petit peu. Mais il y avait toujours un élément qui, pour les musiciens avec lesquels j'ai joué, était comme bizarre, étrange, qui venait d'un autre univers, et que même pour moi c'était surprenant. Parce que j'ai joué très longtemps avec deux groupes rock en Argentine. Et souvent, j'apportais des pièces, des compositions rock, des chansons. Mais où il y avait toujours une ou deux petites notes qui étaient bizarres, qui ne faisaient pas partie normalement de la gamme. Et même moi, j'avais de la difficulté à expliquer pourquoi ça sonnait comme ça dans ma tête. Jusqu'à que, déjà arrivé à la trentaine, j'ai entendu un duo de musiciens, qui maintenant d'ailleurs sont très connus, et Marcelo Mogilevski et César Lerner, grands musiciens.
Et je les ai fait entendre aussi.
Bon, c'est des musiciens avec lesquels j'ai joué en Argentine, mais en faisant, avec Marcelo, on a fait du jazz, on avait un groupe qui s'appelait Los Mijailes, et ça c'était à la fin, au tout début des années 90. Ça s'appelait Los Mijailes parce qu'on avait tous des noms de famille qui sonnaient très russes. Pour la plupart, on était des juifs. Mais et Mikhail, c'était un hommage à Mikhail Gorbatchev. Et avec César Lerner, d'un autre côté, on avait accompagné un musicien qui faisait la musique de l'Inde, et Sergio Bulgakov. Comme quoi, il n'y avait rien de vraiment explicitement juif dans ce qu'on faisait. Mais César et Marcelo se sont mis ensemble pour faire Klezmer à Buenos Aires. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, Klezmer. Je les ai entendus jouer un jour. Et c'est comme si toute mon enfance déboulonnait sur moi d'un coup, et les visages de mes grands-oncles, de mes grands-parents, le gefilte fisch, tout est apparu de nouveau. Et je me souviens encore de cette soirée comme quelque chose d'assez magique, parce que je me suis retrouvé, j'ai reconnu ce qu'était ma musique folklorique à moi. C'est clair que c'était pas le tango, j'adore le tango, je joue du tango, mais le tango ça ne parle pas du passé de ma famille.
Oui, c'est pas au même
endroit. Non. C'est autre chose. Et bien que dans le tango, et ça c'est une autre conversation, il y a beaucoup de juifs.
Oui.
Parce qu'il y a eu énormément de musiciens juifs au début du XXe siècle en Argentine qui ont contribué à la naissance de cette nouvelle musique. Mais en tout cas, l'histoire c'est que... Ça c'est un peu l'histoire de la renaissance de la présence des éléments juifs dans ma musique. À partir de cette rencontre-là, il y a déjà une vingtaine d'années, je me suis mis de façon consciente et volontaire à écrire une musique que moi j'appelle juive, et qui n'est pas vraiment la musique Klezmer, mais qui évidemment a des liens avec certaines traditions musicales juives, que ce soit du côté de la musique cantoriale, de la musique hasidique, ou de la musique plus festive.
Est-ce que dans les enregistrements qu'il y a là, tu peux nous faire entendre quelque chose d'un peu plus rock, par exemple, comme...
Ça existe. Ça existe. Peut-être chanson de cul.
Chanson de cul qui s'écrit avec un cul et non pas ouais. C-U-L.
Non, 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 non.
On écoute. We'll be right back. C'était Chanson de cul de Damian Nissenson. Alors Damian, ça c'est bien différent de ce qu'on a entendu avant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation musicale ?
Ma formation musicale, c'est plutôt une déformation musicale. J'ai une adolescence d'étudiant de musique classique. J'ai fait de la guitare classique, j'ai fait du violoncelle au conservatoire à Buenos Aires. Et j'ai fait du saxophone classique. Saxophone, tout ce que j'étudie, c'est du classique. Et j'ai fait du saxophone classique dans le conservatoire de Fribourg, Suisse, où j'ai habité pendant longtemps. Et j'ai beaucoup étudié aussi avec des maîtres, des très, très bons musiciens, très bons profs, qui peut-être jouaient d'autres musiques, mais ce que j'ai travaillé surtout, c'est le classique, en termes de langage, en termes de travail technique, travail de son, travail de mécanisme, c'était toujours dans le classique. Mais chose curieuse, j'ai jamais voulu jouer du classique et je trouve que vraiment le saxophone pour faire de la musique classique, c'est un instrument bâtard. Que c'est d'ailleurs ce que dans le monde de la musique classique, on pense du saxophone en général.
Et des saxophonistes.
Et des saxophonistes. Et je me sens, et j'en suis très fier, d'être un bâtard. Mais la chose, c'est qu'en termes de formation, c'est ça. Mais j'ai toujours joué du rock, du blues, du jazz et beaucoup de musique ethnique arabe, africaine et juive.
On te connaît plus comme saxophoniste, mais donc tu as joué du violoncelle et de la guitare.
Yeah.
On se retrouve après la pause.